Canu Info.
Radio Canu 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Il est 19h03 et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, dites donc, une victoire des infirmières du CHU de Toulouse après une journée de grève. C'est une petite nouvelle, mais c'est une petite bonne nouvelle. On va s'en délecter.
Ensuite, on va parler de l'Europe qui fait la grande union quand ça l'arrange.
Un jeune, une solution. Embaucher 100 000 jeunes, c'est une sorte de vaste plan. Et licencier en même temps, c'est la partie du plan qui est moins annoncée.
Ensuite, le projet Montagne d'Or relancé en Guyane, ce que Macron veut, trois petits points.
Le gouvernement maltais pète les plombs.
Et ensuite, on ira à Villeurbanne, juste à côté de chez nous, où une expulsion tristement banale et banalement illégale d'un squat a eu lieu.
Et puis on terminera par en vous donnant le rendez-vous pour la manif de samedi.
Et voilà. Et on va commencer par les brèves alors.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de virgule ce soir, si je ne me trompe pas.
Ah oui, oui, tout à fait.
Alors écoutez, on va commencer par celle-là parce que c'est le site Nantes Révolté qui, encore une fois, me donne l'occasion de faire une petite brève bonne humeur du début du Canu Info. Bonne humeur et triste constat. L'article s'appelle « Gouvernement, deux points, une association de malfaiteurs, point d'interrogation ». Et l'article dit exactement ceci. Récapitulons. Le ministre de l'Intérieur est visé par une enquête pour viol. Le ministre des Comptes publics est visé par une enquête pour corruption. Le ministre de la Justice est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Le ministre des PME est visé pour deux enquêtes. Alors celui-là, c'est un peu moins connu. Alors j'ai quand même cherché le détail. Figurez-vous qu'il a oublié de déclarer quelques petits trucs à la haute autorité de transparence de la vie publique. 171 000 balles. Une bagatelle.
Mais rien du tout.
Rien du tout, d'autant plus rien du tout qu'en réalité ce pognon n'est pas à lui, c'est du pognon de la Confédération Nationale de l'Artisanat et des Services que lui présidait. Mais bon, ce pognon est quand même arrivé sur son compte à lui, bizarrement. Donc voilà, rien du tout. Le ministre de l'écologie précédent a dû démissionner pour des histoires de festin avec l'argent public. Le secrétaire d'État Alexis Kohler, mis en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt et trafic d'influence, a été protégé par une lettre personnelle d'Emmanuel Macron au parquet financier, suite à un rapport de police qui l'accablait. Richard Ferrand, quatrième personnage de la République, est mis en examen depuis septembre 2019 pour prise illégale d'intérêt dans une affaire immobilière, ce qui n'était encore jamais arrivé pour un président de l'Assemblée nationale en fonction. Vous vous souvenez, quand il avait été élu, Macron, qui parlait d'un gouvernement exemplaire?
et ben hop, une brève, mais alors une vraie brève. Alors, bonne nouvelle, hein, si jamais vous vous inquiétez, le pape François a été vacciné aujourd'hui. Voilà, alors bon, si jamais dans certains ou certaines d'entre vous s'en faisaient souci, voilà, c'est fait.
Et ben écoutez, vu la population du Vatican, ça fait déjà, même si jamais il est le seul à être vacciné dans le Vatican, ça fait déjà toujours une plus grosse proportion de la population du Vatican vaccinée que de la population française. Alors, parce qu'il y a toute une campagne de vaccination en France qui est organisée, mais faut organiser, est-ce bien le mot? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on savait déjà depuis quoi? Depuis une semaine à peu près que la désormais fameuse campagne de vaccination contre le Covid est donc organisée plus ou moins par le gouvernement avec l'aide du cabinet de consultants McKinsey. Alors McKinsey, c'est un cabinet qui est entre autres connu pour son rôle dans ce qu'on a appelé et ce qu'on réappellera dès qu'on parlera moins de Covid, la crise des opioïdes aux États-Unis. En résumé, on va pas du tout faire un truc, mais les fabricants de médicaments avec de l'opium ont passé beaucoup d'énergie et de communication et de 1000 stratégies différentes pour faire prescrire massivement des opioïdes. Et pour faire ça, pour toutes ces manières de faire prescrire, ils ont eu recours à des cabinets de consulting, comme par exemple McKinsey, pour les aider vraiment à fourguer de l'opioïde à tire-larigot. Résultat, alors sans même compter les gens qui sont devenus addicts, les différents dommages corporels qui sont pas mortels ou je sais pas quoi, mais résultat quand même, 450 000 morts aux États-Unis à cause de ça entre 1999 et 2018, selon les dernières estimations du Centre de prévention des maladies américaines. C'est donc ce même cabinet McKinsey qui aide maintenant le gouvernement français à gérer la vaccination. Alors ça, on le savait déjà. Ce qu'on a appris cette semaine en plus, c'est combien McKinsey est payé pour ce job. Ils sont payés combien ? Ils sont payés ?
Un SMIC ?
Trois SMIC, 2 millions d'euros par mois pour conseiller le gouvernement sur la vaccination. Je veux dire, c'est visible que les conseils sont brillants, quoi.
Et est-ce que dans le contrat, il y a un truc de prévu de résultat ? Parce que...
Alors non, on dirait pas, on n'a pas l'impression que c'est lié à un truc de résultat. Et c'est donc à cette incompétence conjuguée d'un côté de l'équipe macroniste et de l'autre côté de McKinsey que nous devons donc cette brillante stratégie vaccinale à laquelle on assiste. Alors en parlant pudiquement de ces 2 millions d'euros par mois d'argent public, hein, les médias ne précisent pas tout à fait que ça veut dire par exemple que le cabinet McKinsey touche l'équivalent de 1176 salaires bruts d'infirmiers ou d'infirmières par mois, que ce cabinet touche chaque mois l'équivalent d'une augmentation des salaires bruts pour 50 000 infirmiers ou infirmières, une augmentation qui serait de 480 euros par an. C'est-à-dire qu'il touche chaque mois de quoi augmenter 50 000 infirmiers et infirmières de 480 euros par an. Hein, c'est bien ça. Pour une équipe de 2 consultants, le cabinet facture environ 160 000 dollars par semaine, soit environ 130 000 euros. Les gouvernements saccagent leur système de santé publique et plutôt que de les renflouer, ils préfèrent confier la gestion au privé pour des sommes astronomiques de la catastrophe qui en résulte. La crise, ça rapporte.
Canu Info.
Et on va reparler des infirmiers et infirmières du CHU de Toulouse.
Eh bien oui, parce que lundi avant-hier, les infirmières et aides-soignantes du bloc pédiatrique du CHU de Toulouse se sont mises en grève pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles, un manque d'effectifs devenu ingérable après des années de politique austéritaire. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont pas seulement mis en grève, mais elles ont aussi occupé leur bloc, le bloc de la pédiatrie, et elles n'ont laissé fonctionner que les urgences. Après une journée de grève et de lutte, les travailleuses ont gagné sur la plupart de leurs revendications contre la gestion à la MEDEF de la crise sanitaire et la politique de faire plus avec moins qui règne dans le secteur public et privé. La victoire des infirmières et aides-soignantes de Toulouse montre que seule la lutte des travailleurs et travailleuses organisées paye. Alors précisément, donc après une journée de grève et d'occupation, les travailleuses ont réussi à faire plier la direction et ont obtenu le recrutement de 8 infirmières sur des postes vacants. C'est-à-dire qu'il leur manquait 8 infirmières. Et 2 infirmières de plus pour remplacer les gens qui sont en congé maladie. Parce que bien sûr, c'est des conditions de travail où les gens craquent quand même rapidement, se partent en congé maladie. Et là, par exemple, ça faisait qu'il y avait encore moins de monde parce que les gens en congé maladie n'étaient pas remplacés jusqu'à cette grève. La stagiarisation de 9 collègues qui étaient en CDD... La stagiarisation de 9 collègues en CDD ou en CDI, tiens, je ne comprends pas exactement... Le paiement en heures supplémentaires des week-ends effectués en plus de se planifier, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les infirmières, il faut qu'elles bossent des fois la semaine et des fois le week-end. Là, on leur rajoutait des week-ends et on les payait salaire normal. Là, elles ont obtenu que les week-ends rajoutés soient payés en heures sup. Et surtout que ces week-ends rajoutés soient rajoutés sur la base du volontariat et donc pas de la contrainte. Voilà, écoutez, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Et la prochaine journée de mobilisation nationale des soignants et soignantes, c'est le samedi 21 janvier, pour une victoire plus globale cette fois.
Canu Info. Du mercredi.
On va parler de l'Union Européenne. Et donc, pour la première fois, des personnes pourront pavaner avec un uniforme européen. Alors non, ce n'est pas une agence chargée d'aller là où il y a le plus de besoin en termes sanitaires. On ne sait pas, en période de pandémie, cela aurait pu être utile. Ni d'un organe quelconque qui viendrait porter assistance à des populations en danger ou en grande précarité. Non, le premier uniforme européen sera porté par les agents de Frontex, l'agence qui surveille les frontières extérieures européennes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu trois choses sur lesquelles l'Europe s'est mis d'accord. Hein, c'est sur son drapeau, sur sa monnaie et sur les uniformes de Frontex.
Alors, le migrant dans la mer, avant de se prendre un coup de rame sur la tête, il pourra savoir qu'il est vraiment déjà arrivé à la frontière de l'Europe.
Et ben exactement, hein, il y a des domaines où l'Europe fédère et unit plus que d'autres. Alors, en plus de l'uniforme, un corps européen permanent de garde frontière Frontex, composé de 700 personnes, sera mis en place ce mois-ci. Hein, on rappelle qu'actuellement, ce sont les États membres qui mettent à disposition des agents temporairement à l'agence. En gros, chaque pays a ses douaniers et à un moment, ça tourne pour dire « Allez, cette fois-ci, c'est ton tour d'aller taper du migrant en Méditerranée. » Alors, niveau timing, on est au top chez Frontex, puisque le même jour, Frontex est visé par une enquête qui l'accuse de complicité dans des opérations de pushback. Alors, ces opérations de pushback, c'est un terme un peu sympa pour dire « expulsion illégale ». Simplement. En mer Égée et en Hongrie. Le jour de son annonce, l'OLAF, qui est l'Office européen de lutte anti-fraude, a confirmé enquêter sur Frontex pour des faits de harcèlement, de fraude professionnelle et donc de pushback. Enquête qui a commencé tout de même par une perquisition des bureaux du directeur de Frontex et de son chef de cabinet.
Waouh !
Directeur qui est français en ce moment. Autant dire qu'ils doivent avoir un peu du document sous la main. Ça fait en tout cas plusieurs mois que Frontex était dans le viseur d'organisations et de journalistes. Par exemple, Der Spiegel a démontré que des agents de l'agence se sont rendus complices avec des gardes-côtes grecs de refoulements illégaux en mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Plusieurs techniques sont utilisées par les gardes-côtes pour faire ces expulsions. Soit ils sabotent les moteurs des canaux, soit avec leurs gros bateaux, ils les empêchent d'avancer. Parce que c'est que les personnes ont quand même juste des petits canaux pneumatiques. Donc voilà, c'est assez simple. Et ils ont des petites réserves d'essence. Donc en gros, ils font ça jusqu'à ce que les personnes n'aient plus d'essence. Et quand ils n'ont plus d'essence, ils se cassent, quoi. Laissant le canot quand même à la dérive. Ou alors, carrément en expulsant des personnes qui viennent tout juste d'arriver sur les côtes et sur les plages grecques. Et cette fois-ci, en les remettant dans un canot de secours. Et c'est au cours de ces dernières manœuvres là que Frontex a proposé ses services aux gardes-côtes grecs, le tout en violation totale de la moindre ligne de droit international. Frontex est accusé d'avoir eu connaissance et de s'être rendu complice du refoulement d'au moins 6 bateaux d'exilés en mer Égée entre mars et septembre 2020 dans le cadre de l'opération Poséidon. Donc ça, c'est les super noms qu'on donne aux opérations militaires ou de Frontex. Frontex apparaît également...
Et qui sont plus souvent en fait, quand c'est Frontex en mer, souvent en fait avec une sorte d'annonce que c'est des opérations qui vont aussi servir à sauver des gens.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc là, en réalité, ils ne les sauvent pas, ils les rebalancent à la mer.
Ah oui, non, pas du tout. Et on voit quand même plusieurs vidéos, enfin pour dire le contexte. Alors ça, a priori, c'est pas des agents de Frontex qui ont fait ça, mais on voit quand même plein de vidéos de gens qui étaient sur ces bateaux, qui ont pu filmer des gardes-côtes grecs cagoulés venir auprès d'eux, au plus près des bateaux pour soit faire bouger le bateau, soit leur confisquer leur moteur, soit faire des grands tours avec ceux-là. Ils ont vraiment des bateaux très puissants qui font d'énormes vagues avec le moteur. Donc en tournant autour du bateau, ce qui risque de faire chavirer les bateaux et ce qui fait paniquer à mort les gens à bord, et on les comprend. Donc ça, a priori, Frontex n'a pas fait ce genre de truc, mais en tout cas, on est largement complice, qu'il est, et l'agence est largement au fait de ces pratiques. Frontex apparaît également dans un autre dossier, cette fois-ci du côté de la Hongrie, dans un rapport du comité Helsinki hongrois, des preuves documentées de refoulements illégaux menés par les gardes-côtes hongrois sous les yeux d'agents de Frontex sans que ceux-ci n'interviennent pour empêcher ces expulsions illégales. En 2017, par exemple, les gardes-côtes frontières hongrois, en coopération avec Frontex, expulse un jeune Afghan de 17 ans, alors même que 3 jours avant, son avis d'expulsion avait été annulé par une cour de justice. Alors après une longue enquête de plusieurs centaines de jours, Frontex, fair play, reconnaît son erreur et avoue qu'elle a bafoué plusieurs droits fondamentaux du jeune homme. Bon bah voilà, bon bah faut avouer totalement pardonner quand on est Frontex, hein. Bon voilà, ça n'ira pas plus loin. En 2016, pourtant, avec l'arrivée de l'extrême droite en Hongrie et la légalisation des pushbacks interdites par le droit européen par le gouvernement hongrois, le comité consultatif de Frontex, qui porte bien son nom, vous allez le voir, avait recommandé de se retirer de la Hongrie, recommandation non suivie par l'agence, alors même que le gouvernement hongrois avait été condamné, lui, par la justice, par la Cour de justice européenne. Alors, entre la Grèce et la Hongrie, qui sont quand même deux gouvernements d'extrême droite, et la collaboration de son agence avec ces deux pays, on peut dire que l'Europe s'assoit quand même gentiment sur les gouvernements d'extrême droite pour ne mener à bien sa politique migratoire tout en les condamnant de temps en temps, histoire de garder un peu un espèce de vernis démocratique.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Nous appelons à une mobilisation collective pour la jeunesse française. Écrivait le cœur sur la main 35 dirigeants d'entreprise dans une tribune publiée dans le JDD le premier dimanche de l'année 2021.
Waouh, c'est beau.
Alors le propos général de la tribune, c'était de dire allez hop, on y va, on embauche 100 000 jeunes d'ici à la fin du mois, à la fin du mois de janvier, hein. Dans le cadre du dispositif « Un jeune, une solution », un dispositif gouvernemental. Ce dispositif, bon, ma foi, incite les entreprises à embaucher des jeunes de moins de 26 ans. Les incite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec une petite aide financière. Les embaucher soit en CDI, attention, hein, soit en CDD d'au moins 3 mois. Quand même,
attends, ça ne déconne pas, quoi.
Bon, les aides vont jusqu'à 4000 euros sur une année pleine pour une embauche à temps complet. C'est pas complètement négligeable. C'est bien quand même, les patrons se mobilisent pour l'emploi des jeunes. Et ça, par les temps qui courent, c'est quand même classe. Alors juste, à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'au même moment, une bonne partie des signataires de la tribune, par exemple, a parallèlement, lancé des plans sociaux. Par exemple, une entreprise qui s'appelle Accenture, une entreprise spécialisée dans le conseil et les technologies, qui s'est lancée l'été dernier dans la réduction de ses effectifs, moins 25 000 emplois dans le monde. C'est aussi le cas de la Société Générale, qui a aussi signé cette tribune « Un jeune, une solution », blablabla. La Société Générale qui a annoncé début novembre la suppression de 700 nouveaux postes, après les 750 qui avaient déjà été supprimés l'année dernière. C'est encore le cas de Schneider Electric, en prise avec la fermeture de deux de ses sites à Saumur et à Latte dans l'Hérault. Donc tous ces gens, ça ne va pas les empêcher d'embaucher des jeunes.
Ce qui est bien, c'est que tu vois, on n'est pas une contradiction près, quoi.
Non, pas tout à fait. Alors, est-ce que c'est des cas isolés? Pas vraiment, parce qu'il y a... Alors, pour les plans sociaux, c'était une bonne partie de la liste, mais il y a d'autres formes de réduction d'effectifs. Chez Carrefour, c'est 3000 départs dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective lancée en 2019. Pour le groupe BPCE, qui chapeaute la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, 11 000 suppressions d'emplois annoncées en 2017 en vue de son plan stratégique 2018-2020. Les entreprises publiques qui sont aussi signataires de cette tribune, à ma foi, c'est pas beaucoup mieux, hein, parce que pour EDF, 7 000 incitations au départ entre 2017 et 2019. Pour la SNCF, 7 000 pertes d'emplois selon son dernier bilan social 2019. Plus ou moins la même chose à la Poste, moins 8 860 postes en 2019. Alors quoi? Eh ben, embaucher un jeune, ça rapporte 4 000 balles. Et ça permet toujours de se débarrasser d'un vieux qui, lui, ne rapporte plus rien. Encore une fois, le gouvernement fait pleuvoir le pognon sur les patrons sous prétexte d'emploi, mais en réalité, juste pour faire pleuvoir le pognon sur les patrons.
Canu Info.
Non mais je pense que des gens qui écoutent ce Canu Info risqueraient de penser au bout d'un moment que peut-être on a une dent contre Macron. Je te jure, hein, parce que là je vais encore dire un truc complice, ça serait fou. Parce que non mais parce que vous avez qu'à écouter des Canu Info plus anciens, vous verrez qu'on avait déjà une dent contre Hollande hein, et Sarkozy. Et... Bon bref.
Ah, tu veux dire qu'on va pas appeler à la grande union de la gauche pour les prochaines présidentielles? Ça fait pas partie.
Comment c'est vrai que je l'ai pas vu dans le. On n'a pas encore une réunion pour en parler. On verra plus tard.
Ah, du coup, c'est plus pour qui voter.
Ouais, la merde.
Bon, bah, on va réfléchir.
Ouais, on vous dira. Quand le moment sera venu, on vous dira pour qui voter. Vous vous souvenez de cette histoire, le projet Montagne d'Or? Ça avait fait un peu du bruit, un peu coulé de l'encre, tout ça, il y a un peu moins de 2 ans. Un grand projet de mine à ciel ouvert, c'était en Guyane française. Un gros truc. Hein. Bon, très controversé par les gens du coin. Et pour cause, je dirais. Le projet Montagne d'Or, c'est 1500 hectares déboisés, dont un tiers qui sont de la forêt primaire. Qu'est-ce que c'est la forêt primaire? C'est une forêt qui a toujours été de la forêt depuis aussi longtemps qu'il y a des humains sur la planète. C'est ce qui crée quand même une sorte de machin écologique qu'on ne peut pas trop recréer en quelques dizaines d'années après.
Ah, c'est pas la première forêt à abattre, quoi, c'est ça que ça veut
non,
pas dire.
Non, bah, c'est ça. Primaire, ça veut pas dire la première à abattre.
Ok.
Le projet Montagne d'Or, c'est plus de 2000 espèces végétales et animales qui ont été inventoriées sur le site, dont 127 qui sont protégées. C'est 57 000 tonnes d'explosifs, 46 500 tonnes de cyanure, 195 millions de litres de fioul qui seraient nécessaires pour extraire de l'or durant les 12 années de vie du projet. Et puis, c'est aussi 140 000 litres d'eau par heure. 140 000 litres par heure. Alors les craintes des gens qui sont dans le coin tiennent également au risque de catastrophe environnementale que ce type d'extraction pourrait générer. Y a un peu des exemples sur d'autres mines de ce type. Hein. En fait, des mines à ciel ouvert, ça veut dire entre autres qu'on fait un énorme lac de boue et qu'il y a un barrage pour tenir ce lac. Bon, les barrages sont plus ou moins solides. Hein. En 2015, un barrage de ce type avait cédé près de la ville brésilienne de Marina, 19 morts. Plusieurs villages rayés de la carte et 32 millions de mètres cubes de boue toxique, bien sûr, puisqu'elles sont pleines de cyanure, déversées aux alentours. En janvier 2019, un autre barrage minier avait cédé, ça c'était au Brésil, à Brumadinho, et il y avait eu plus de 100 morts, 250 disparus. Ça pour le coup, c'était tout près de la Guyane française. Et bien sûr, énorme désastre environnemental. Bon. Avec tout ça, bien sûr, les voisins et voisines de la mine n'étaient pas particulièrement enthousiastes. Et puis après, blabla, Macron, l'écologie, les gilets jaunes, tout ça. Alors Macron, certes, il tenait à ce projet, mais il tenait aussi à son image de président ultra vert. Et ça, cette histoire, ça faisait un peu tâche. Et puis ça avait quand même été pas mal médiatisé. Hein. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le 6 mai 2019, Emmanuel Macron reçoit une délégation scientifique de, je sais pas quoi, de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et déclare à l'issue de la rencontre que, ouvrez les guillemets, je vais citer Macron, de manière très claire aujourd'hui, l'état de l'art du projet, bon ça veut dire la technique envisagée, ne le rend pas compatible avec une ambition écologique en matière de biodiversité. Ah ouais, tu m'étonnes, il avait quand même mis longtemps à s'en rendre compte parce que ça faisait longtemps qu'il y avait un paquet de gens qui le lui disaient. Mais bon, c'est quand même bien de finir par comprendre. Le 23 mai, le Conseil de défense écologique, donc le petit groupe réuni autour de Macron pour l'écologie, annonce que le projet actuel Montagne d'Or est incompatible avec les exigences de protection de l'environnement. C'est bon, merci, ciao, le combat est gagné. À ce moment-là, le combat est gagné. C'était quand même mal connaître le Macron, parce que quand il a une saloperie en tête, le Macron... On la lui enlève pas comme ça. Et c'est pas parce qu'il dit « Oh, je l'ai enlevé de ma tête » que tout d'un coup, elle a réellement disparu. Alors, comment ça s'est passé, cette soi-disant annulation du projet, techniquement? Eh bien, en fait, pour réaliser le projet, la compagnie Montagne d'Or avait besoin de prolonger ses 2 concessions minières qu'elle avait déjà, mais pour des trucs plus petits. Et elle en avait fait la demande au ministère de l'économie, comme ça se fait dans ces cas-là. Et donc, en janvier 2019, sous grosse pression médiatique, Bruno Le Maire décide ce qu'on appelle un rejet implicite. des deux concessions. C'est-à-dire, un rejet implicite, c'est quoi ? C'est quand vous demandez un truc à l'État, que l'État vous répond jamais et que ça veut dire non. Ça arrive dans toutes sortes de procédures.
Par exemple, les procédures de demande d'asile.
Par exemple, les procédures de demande d'asile, exactement. Voilà, rejet implicite, merci, ciao, on n'en parle plus. Sauf que des accords avaient déjà été signés, bien sûr. Du coup, la compagnie Montagne d'Or porte l'affaire devant les tribunaux, mais à ce moment-là, plus aucun journaliste ne s'intéresse aux Beans, puisque les journalistes ont bien compris, Macron a dit, ce projet c'est niet, ça n'aura pas lieu, merci, ciao. Donc les journalistes, merci ciao, ils sont partis ailleurs, il y avait autre chose à faire. Et la procédure suit son cours tranquillement, en toute discrétion, et puis le 24 décembre dernier, le tribunal administratif de Cayenne a, ma foi, enjoint l'État à prolonger, dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire pas pour un délai de 6 mois, mais l'État a 6 mois pour dire « je prolonge », les concessions minières de la compagnie Montagne d'Or. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire « c'est bon, la mine à ciel ouvert va voir le jour ». C'est bon, la compagnie qui voulait ce projet a gagné, le projet aura lieu. Ah bah merde. Bon, en même temps, c'est vrai, on peut rien reprocher au gouvernement, il a fait tout ce qu'il a pu, hein, le rejet implicite, blablabla. Bla, bla, bla. Alors tout ce qu'il a pu, en regardant d'un peu plus près, plus ou moins, parce que pendant le procès, bah, ma foi, on dirait que le gouvernement n'a pas fait de son mieux pour faire quoi que ce soit, c'est-à-dire tout bêtement que aucun représentant de l'État n'a daigné faire le déplacement pour soutenir la légalité du refus de prolonger les concessions. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait pas le moindre avocat de l'État pour soutenir ce refus implicite. Alors, cette faiblesse de la défense semble avoir joué dans le jugement, nous dit le journaliste de Basta. Ah ouais, tu m'étonnes. Le tribunal relève aussi que l'État ne produit, ma foi, aucune pièce justificative. Et pointe le défaut de contestation sérieuse du ministre, ainsi que l'absence de critique. Bref, l'État a laissé faire ce procès sans lever le petit doigt pour défendre l'annulation du projet. Sans lever le petit doigt. En clair, il a tout fait pour perdre, et donc donner gain de cause à la compagnie Montagne d'Or, et donc laisser se faire la mine. Quand Macron fait de l'écologie, c'est toujours très légèrement moins efficace que quand il fait du sécuritaire.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va faire un tour du côté de Malte, où le gouvernement maltais, qui, alors, on en a souvent parlé dans la rubrique Faut que ça sache, hein, qui en général est prêt à tout pour expulser, hein, c'est-à-dire empêcher des canaux de débarquer, ou alors tout faire pour ne pas leur porter secours, ou alors si des gens sont arrivés comme ça, d'affréter des bateaux avec un émissaire maltais qui va refiler de la bouffe à des Libyens pour accepter des migrants refoulés. Enfin bref, quand je vous dis tout, c'est tout. Et ben, ce gouvernement-là, donc, vient de condamner 3 exilés soudanais à 6 mois de prison ferme pour avoir tenté de quitter le pays. Alors, ils ne les ont pas condamnés pour avoir quitté le Soudan. Non, ils les ont condamnés parce qu'ils voulaient se barrer de Malte. On les comprend, quoi. Et ce, en se cachant dans le conteneur d'un navire commercial. Alors, ils étaient enfermés, hein, dans le centre d'accueil de Alfar, centre d'accueil maltais, où de nombreux témoignages de personnes qui y sont passées dénoncent les mauvais traitements qui ont lieu dans ce centre et dans les autres à Malte. Moussa, par exemple, témoignait cet été à Infomigrant que Malte, c'est comme la Libye, on y est enfermé sans raison. En tout cas, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut y être enfermé pour 2 raisons, aussi bien parce qu'on veut y entrer que parce qu'on veut y sortir.
Radio Canu 102.2.
Tiens, on va faire dans le local ce coup-ci. Ça se passe à Villeurbanne, rue Frédéric Saïs. Lundi dernier, grosse opération de police pour virer, ma foi, quelques personnes d'une maison vide. Les occupants et occupantes étaient rentrés dans les lieux le mercredi précédent, mercredi 6, certainement juste après avoir écouté le Canu Info. Alors bon, ils ont été discrets comme font souvent les gens dans ces cas-là, mais malgré tout, le samedi 9, les flics, probablement appelés par les voisins, sont passés, les flics municipaux, et ont constaté l'occupation. Normalement, une fois qu'on sait qu'une maison est occupée, 48 heures plus tard, et en l'absence de voie de fait, ce qui veut dire que ça marche pas si c'est déjà le domicile de quelqu'un d'autre, hein? Mais
Ou même le domicile, ou même la résidence de vacances.
Ou même la résidence secondaire, oui, c'est ça. Ça veut dire ça marche si c'est une maison pas utilisée, quoi. Mais c'est ça, normalement, 48 heures après que ça soit constaté, la loi considère que la maison est le domicile des occupants-occupantes. Il ne peut plus y avoir ce qu'on appelle une procédure de flagrant délit. C'est-à-dire, si les flics vous voient rentrer, ou s'ils pensent que vous venez à l'instant de rentrer, là, ils peuvent vous mettre dehors direct. Mais du coup, si vous y êtes depuis plus de 48 heures, si ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre, eh ben, c'est votre domicile. Et donc, le propriétaire, s'il veut vous virer, il doit faire une procédure. Ça, c'est la théorie. La pratique, ma foi, est toute différente, cette fois-ci, comme bien, bien souvent. Donc lundi soir, c'est-à-dire un peu plus de 48 heures après que la police municipale ait constaté l'occupation. Quand les vigiles chargés de la surveillance de la maison sont passés, ils ont vu rouge et ils ont commencé à être hyper vénères à Grèce, comme souvent. Et puis, ils ont appelé les flics, qui sont bien sûr arrivés en nombre. Je vous raconte une histoire, les gens qui ont déjà vécu des histoires d'ouverture de squad, vous la connaissez tous par cœur cette histoire, parce que c'est tellement récurrent. Mais ma foi, c'est pour les gens qui seraient moins qui ont moins l'habitude de ce genre de choses. Eh bien, sachez que c'est une histoire, mais tellement ultra banale. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Les flics arrivent en nombre, en gros nombre. Les squatteurs avaient aussi appelé leurs potes, et leurs potes étaient là en soutien devant la maison, un peu pour protéger la maison. Ma foi, finalement, moins nombreux que les tonnes de flics. Alors, les flics ont commencé par prendre tous ces gens qui étaient venus en soutien et les ont verbalisés pour rupture du couvre-feu. Et oui, être dehors après 20h, c'est illégal. Tout le monde, y compris la malheureuse élue municipale de Villeurbanne, qui était elle aussi venue en soutien, et qui par ailleurs avait une sorte d'attestation, je ne sais pas ce que son attestation attestait, mais enfin bon. Elle a quand même eu ses 135€ d'amende. Après quoi, les flics, ils sont rentrés dans la maison. Pour ce faire, ils ont défoncé le portail avec leur fourgon, puis la porte avec un bélier qu'ils avaient amené exprès. Dans la maison, il y avait, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était 13 personnes, ou 11 peut-être.
Ah, si c'est 13, en même temps, c'est un peu une
erreur. Oui, c'est vrai, les gens...
Ma grand-mère n'aurait jamais laissé faire un truc pareil.
Ma voisine non plus. Tout le monde est assis en rond dans une pièce au moment où les flics arrivent, ce qui n'empêche pas les flics de sortir leur gun et de pointer tout le monde, de peur que les gens, certainement des terroristes d'ultra-gauche, ne les égorgent d'une seconde à l'autre. Et ils embarquent tout le monde en garde à vue pour dégradation. Après 6 heures au trou, les flics sont vraiment, vraiment, tellement pas arrivés à justifier leur dégradation que...
Tu veux dire la dégradation du portail qu'ils ont défoncé avec leur
camion. À justifier les dégradations qu'auraient commises les gens, que ma foi, ils les ont laissés sortir, avec malgré tout un rappel à la loi. Alors rappel à la loi, il faut bien comprendre que c'est une sorte de procédure qui est un peu nouvelle dans cet usage, en tout cas, c'est à chaque fois que les flics vous ont arrêté, qu'ils n'ont rien contre vous, et que malgré tout, ils ne veulent pas dire qu'ils n'avaient rien contre vous, alors vous avez un rappel à la loi. C'est comme un jugement où vous n'allez pas avoir de peine, donc vous n'allez jamais contester, parce que vous êtes bien content de vous en tirer comme ça, mais où les flics n'ont rien à prouver, ça fait quand même un peu comme si on vous montrait un doigt grondeur, parce que vous avez fait une bêtise, mais en même temps, on ne vous laisse pas du tout l'occasion de dire « c'est pas vrai, j'ai pas fait la bêtise ».
Et donc, et en plus, ça fait un truc, mine de rien, je pense que si on vous rechoppe pour la même histoire, ça fait un peu genre « oh, en plus, vous avez déjà eu un rappel à la loi, cette fois-ci, on ira un peu plus loin ».
Oui, c'est probable. Effectivement, je suis pas sûr, mais c'est probable. Bon, écoutez, c'est très français, c'est pas du tout actuel ou je sais pas quoi. Ça fait des années, des dizaines d'années que ça se passe comme ça. Ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, on arrive à ouvrir des squats et ça se passe bien, mais que ça se passe comme ça un peu régulièrement. Donc, on le souligne encore une fois, en toute illégalité. Ma foi, une manière comme une autre de s'attaquer au problème du sans-abrisme. Ouh, ce violon est mal aux dents.
Et on finit par un petit agenda ?
Et on finit par un tout petit agenda. Puisqu'il y a un événement dans le petit agenda, enfin toi t'as rien ?
Moi j'ai plus rien. Moi.
Toi t'as plus rien. Eh bien écoutez, samedi prochain, 16 janvier, 14h, devant les locaux de l'IGPN, oui, l'IGPN. Ça se passe Cours-Émile Zola à la station Gratte-Ciel, au 225 Cours-Émile Zola, c'est l'adresse de l'IGPN. Alors ma foi, je vais juste vous lire l'appel sur Rébellion. Stop à la dérive autoritaire et à la surveillance généralisée. Justice pour les victimes des crimes sécuritaires. Rendez-vous à Lyon, 16 janvier, 14h, IGPN, 225 cours Émile Zola, blabla. Face à la dérive autoritaire du pouvoir qui attaque nos libertés fondamentales et pour réclamer justice pour les victimes des crimes sécuritaires, nous appelons à nouveau les citoyennes et les citoyens à descendre dans la rue. quand il y a écrit citoyenne et citoyen, ça devrait vouloir dire que ça ne va pas être une manif avec que des totos, normalement. Après s'en être pris à la loi de 1881, la loi qui fonde la liberté de presse et d'expression, avec le projet de sécurité globale, la majorité gouvernementale menace maintenant la loi de 1905, le socle de notre République laïque, avec le projet contre les séparatismes. S'il y a des gens qui trouvent que c'est contre-intuitif, rappelez-vous en très très résumé, ça va, c'est 37, je peux prendre une petite minute, que quand la laïcité a été instaurée en France, il s'agissait quand même à ce moment-là de protéger les pratiquants des religions qui étaient minoritaires en France, qui à l'époque étaient donc les juifs et les protestants. C'est de les protéger contre l'hégémonie catholique. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on veut généralement dire niquer le plus possible les pratiquants d'une religion minoritaire en particulier, et c'est donc l'islam. C'est-à-dire que quand on parle de laïcité aujourd'hui, on dit un peu l'inverse de ce qu'on dit en 1905. Donc le blabla avec le projet contre les séparatismes. Grâce à notre mobilisation, une première victoire a été obtenue au Conseil d'État, juste sur les trucs sécuritaires, puisque le Conseil d'État avait interdit à la préfecture de Paris, c'était pendant les vacances de Noël, l'utilisation de drones à des fins de surveillance. Malgré tout, ce Conseil d'État, c'est pas complètement notre idole, puisque le Conseil d'État a validé les décrets d'extension des fichiers d'enquête d'atteinte à la sécurité publique, qui légalise des pratiques existantes, mais quand même en vrai pas existantes à ce point-là, de fichage politique généralisé des franges de plus en plus larges de la population.
Et sachant que le Conseil d'État, sur cette, c'était une sacrée victoire, mais s'est prononcé sur le fait d'absence de cadre législatif sur l'utilisation des drones et attendait qu'il y ait un cadre législatif pour
C'est-à-dire la loi de sécurité globale, quand elle sera votée, les drones, ça sera possible. Le Conseil d'État, il n'y aura plus de problème. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et continuer à dénoncer et lutter contre toutes ces lois liberticides qui tournent le dos aux principes fondamentaux de notre démocratie et demander le retrait total de la proposition de loi sécurité globale, du projet de loi dit séparatisme et des décrets scélérats du 2 décembre, ceux sur le fichage. Parce que les habitants et habitantes des quartiers populaires ont expérimenté les premiers, les atteintes multiples et répétées aux libertés conduisant aux violences policières, avant que celle-ci ne se généralise au peuple tout entier, c'est-à-dire ça a été d'abord dans les quartiers populaires et après tout le monde, nous marcherons ce samedi 16 janvier aux côtés de l'association des victimes des crimes sécuritaires et des familles de victimes.
Et les signataires sont le collectif Non à la loi Sécurité Globale, composé de tout un tas de gens et de collectifs divers et variés, des associations de victimes des crimes sécuritaires et de l'intersyndicale journaliste CFDT, CGT, FO, SNJ.
14h devant l'IGPN 225 cours Émile Zola.
Samedi. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. En tout cas.
Nous, on se casse là.
Parce qu'après, il y a le couvre-feu.
C'est ça.
Et alors, deux infos. Bah, on va voir un peu ces histoires de couvre-feu ou pas couvre-feu pour voir si on sera en direct, pas en direct, info ou pas info la semaine prochaine.
Vrai, si c'est le couvre-feu à 18h, on va avoir du mal à être là à 19.
Si c'est 18, ouais. Bon, bref. Et voilà, donc tendez l'oreille au cas où quand même. Et deuxième chose, hein, tendez l'oreille dans vos infos, parce que quand même, mercredi dernier, qu'est-ce qui s'est passé quand on a fermé la porte de la radio? Eh bien, le Capitole était envahi par une horde de
ah
gens.
Ouais.
Du coup, ils auraient pu faire ça quelques heures plus tôt, on vous en aurait parlé en direct. Voilà, donc si ça se trouve, eh ben ce mercredi...
Si ça se trouve, la révolution a commencé.
À la fin du
Il y a une demi-heure.
Voilà,
et on n'est pas encore au courant.
Si, on a regardé quand même les journaux un peu. Et ben, en tout cas, portez-vous bien. Attendons les annonces pour savoir à quelle sauce on va être mangé pour les semaines à venir. Et portez-vous bien.
Ciao.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.